Et maintenant, c'est l'heure de votre feuilleton hebdomadaire. Jour à neige, jour à peine. Feuilleton radiophonique écrit par Jean-Michel Asse, interprété en alternance et selon humeur par Didier Rexach et Jean-Michel Asse. Diffusé tous les vendredis de l'été à 21h sur Radio Bartas. Dans l'épisode précédent, si vous avez tout compris, on fait du tourisme. Notre caravane se compose de 3 mules, le chasseur, Frère Estossec et votre serviteur.
Or donc, ce matin, nous partons en équipage pour le moulin. 2-3 heures de trajet tout au plus, mais comme on va pique-niquer, ce sera un peu plus long. Notre hôte a mis les petits plats dans les grands. Il ouvre la marche sur un percheron à la robe noire. Sa cour suit, je suis, et le moine y tout. Le chasseur, lui, participe à une battue. Sur nos mules, nous faisons un peu tâche, mais comme il n'y a pas de spectateurs, on s'en fout. 3 fiers guerriers, en tenue de parade, nous accompagnent. Tout se fatra pour impressionner des paysans qu'on ne verra pas et qui s'en battent les brais. Ils ont d'autres chats à fouetter et de s'esbaudir au passage de leur seigneur. En fin de cortège, le cuisinier, avec 2 marmitons et une charrette pour les munitions de bouche, quelques chiens qui, justement, ce jour-là, n'avaient rien d'autre à faire, ferment la procession. Faut quand même que j'explique pourquoi Bertrand veut nous impressionner. Dans la Châtellenie, le château de Bertrand le Pleutre serait le pôle économique et le château de Rennes Frédérune le pôle politique. Bertrand est garant d'un moulin, d'une mine et d'un charbonnage. Sa mission, faire fonctionner correctement ce tissu industriel, moyennant quoi la reine lui assure protection. Bertrand est vassal de Frédérune, qui elle-même doit des comptes au duc, qui habite dans un autre comté et représente le comte. En tant qu'envoyé de son suzerain, je dois être bien traité. Hier, quand on m'a reçu en audience, nous avons abordé moult problèmes. Il a rendu des comptes et donné son accord pour la sanctification de Riton. Les problèmes de sécurité sur le territoire ont été abordés. J'en ai profité pour lui transmettre la lettre de Frédérine, lui donnant pouvoir de justice pour l'année à venir. L'heure du pique-nique arrive. Le chariot est vidé et en 10 minutes, nous nous retrouvons avec un buffet dressé en pleine campagne, à l'abri du soleil sous un châtaignier. Service impeccable. Les mets sont de qualité et la conversation pour le moins agréable. J'avoue que le côté classieux de Bertrand ne me déplaît pas. Même la bière est fraîche, le tonneau est entouré de paille et de glace. Petite sieste à l'ombre et c'est reparti pour le moulin. 1 heure de marche et nous y sommes. Bertrand profite de cette visite pour vérifier l'avancement des travaux de réfection de l'ouvrage. On m'explique que l'axe principal, celui qui sort de la roue à aube, était fatigué et qu'il y avait urgence à le remplacer avant qu'il ne casse et entraîne des dégâts sur le reste de la structure. Un maître compagnon charpentier, avec 2 lapins, a refait l'axe de la roue qui avait une usure inquiétante. Les travaux, déjà bien avancés, devraient être finis sous 8 aînes. 4 hommes du château ont été détachés pour aider. J'avoue que le mécanisme du moulin m'impressionne. C'est le moine qui traduit le charpentier, celui-ci parlant un patois du Nord. Je vous répète ce que j'ai compris. Le principal problème dans les réparations d'un moulin, c'est qu'il ne faut pas avoir à bouger les meules. Il existe bien des systèmes avec palan pour les lever, mais ce n'est pas de tout repos. Si on peut éviter, on évite. On commence par détourner le béal qui apporte l'eau à la roue. On étaye la roue à aube pour la bloquer. C'est quand même une bête de 3 mètres de diamètre. On coupe l'axe principal entre la roue et l'ouverture du moulin. On désolidarise ce qui reste de l'axe et la roue. À l'intérieur du moulin, on découpe l'axe horizontal de l'axe vertical, celui qui fait tourner la meule. Pour remonter le mécanisme, un nouvel axe principal est glissé par une ouverture prévue à cet usage dans le mur opposé. Je vous passe les détails plus techniques, mais grosso modo, c'est comme ça que l'on procède. Tout le monde se félicite pour l'avancement des travaux. On boit un coup de bière, Bertrand donne un genêt à chaque ouvrier et l'on s'en retourne à la maison. Bertrand, chemin faisant, me fait comprendre qu'il serait bon que je rende un rapport élogieux sur ses travaux. Je lui assure que la baronne sera ravie du succès de cette opération. Il ne faudrait pas oublier que c'est la reine qui finance cette opération. Soirée calme et familiale. Notre hôte nous annonce soirée de gala demain soir, avec une célèbre troupe de saltimbanques qu'un ami lui a recommandée. Au petit matin, on nous prête des chevaux aux armes de Bertrand pour aller visiter les mines, fierté de notre hôte. Le noble, qui gère les affaires de la mine, nous accompagne. J'avais cru comprendre que madame et sa fille seraient des nôtres. Comme je ne les vois pas, on m'explique qu'elles sont parties en avant. Quand on va aux mines, ces dames accompagnent toujours et font baignade plus loin, du moins quand la saison le permet. Avec Waldrad, le temps le permet souvent. Il ne faut pas oublier qu'elle vient du Nord et que ces gens ont des us et coutumes différents des nôtres. Waldrad est devenue épouse de Bertrand, qu'il a récupérée dans un butin de guerre contre les barbares. Quand on réfléchit bien, elle aurait pu avoir un destin plus tragique. Un petit quart d'heure au trot et nous arrivons sur le torrent qu'il faut traverser à gué. En amont, au pied d'une cascade, madame se baigne nue. La Fifi nous explique que pour elle, il fait encore un peu frais, ce qui n'a pas du tout l'air de gêner maman. Le tableau vaut le détour. Waldrad est une très belle luronne. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Le prêtre est dans un état que seule la décence m'interdit de décrire. Même les madones dans ses rêves ne jouent pas dans la même catégorie. Fifi, qui s'en fout de voir sa mère sous la douche, nous défie de la rattraper et pique au galop. Nous essayons de la suivre. Comme on s'étonne de laisser madame seule, nue en pleine forêt, on nous dit qu'un mécréant qui voudrait l'importuner prendrait de gros risques. Le reste de la promenade ne nous réserve plus de surprises, et je dois dire que la Fifi monte comme une reine. Je la savais bonne écuyère, mais la démonstration est une réussite. On ne la rattrapera qu'à l'orée de la forêt où elle nous attend. Le cheval a failli y péter, mais la petite s'est régalée. Quand on sort des bois, le paysage change, plus mouvementé, plus chaotique. Devant nous, ça grimpe jusqu'à une espèce de plateau schisteux. Sur un terre-plein se dressent les bâtiments de la mine, une forge pour les outils de taille, un grand fourneau pour séparer le minerai et un plus petit pour faire les pièces de fonderie, mine de crayon et mesure en plomb. Un petit moulin à sang pour concasser les scories. Le charbon de bois est stocké à l'abri. Les terrils sont plus loin et approvisionnés par un charretier avec son âne. Les entrées des mines sont à gauche. Ce jour-là, un groupe attaque une nouvelle galerie. Les autres mineurs exploitent les anciennes veines qui datent quand même des Romains. Nous sommes accueillis par le maître des forges qui nous fait l'honneur de son établissement. Il nous donne plein d'explications avec chiffres de production et plein de détails que le moine note. Sitôt entré dans la grande galerie avec une torche pour voir, mais pas trop loin, je m'aperçois que je suis claustrophobe. Quand on ressort, les dames ont disparu. Le maître de forge nous explique qu'elles visitent le personnel. Après tout, ce sont quand même les patronnes. Je vais m'apercevoir qu'elles ont un sens aigu de leurs responsabilités. Je vous passe les détails, mais dans l'ordre, nous avons Waldrad qui se fait besogner à quatre pattes par le forgeron et Fifi qui donne du plaisir à l'ouvrier qui conduit la meule. Le maître des forges, philosophe, explique que ce sera pris sur leur temps de travail. Il veut parler des ouvriers. Les dames, elles, sont bénévoles. Je trouve cela petit et le soupçonne d'être un peu jaloux. Pour finir cette visite, on casse une petite croûte et l'on reprend le chemin du retour. Il n'y aura pas de bain dans la cascade, ce qui chagrine le moine. Le voyage lui a quand même été profitable. Il a fait provision de mines de crayon en plomb pour les mois à venir et ramène des poids pour les mesures des cuisines. On rentre à la maison et on se prépare pour la soirée de gala. <t'-> Comme promise, la soirée a été chaude. Nous sommes une quarantaine d'invités dans la grande salle. On a doublé le nombre de torches et dans la cheminée tournent deux cochons de lait et quelques rots. Cervoise et pinard à discrétion. Alcool fort quand ce sera l'heure. Le ton monte doucement, les dames commencent à glousser, les rires se font plus gras, les applaudissements fusent sur l'entrée des artistes. Ça démarre gentiment. Chanteurs avec luth, jongleurs et autres acrobates. Les danseuses dansent, les lapins sortent des chapeaux et le lanceur de couteau a tout bon. La mise en scène est étudiée et les artistes féminines sont de moins en moins vêtues au fil des numéros. Je pense que c'est voulu. Nous avons droit à une danseuse du ventre qui fait tourner des pompons au bout de ses tétons. On donne le rythme en tapant les chopes sur les tables. Les joueurs de tambourin arrêtent net. On installe en une seconde un grand drap. Les torches sont mouchées, une à une, dans la pénombre. Seul le drap reste illuminé par derrière.
C'est la triste vérité que l'on va vous conter. Il s'appelait Jeannot, Jeannot le bien monté. Il vivait dans une grotte, se contentant de presque rien. Les bruits disaient de lui qu'à côté l'âne est un infirme. Mais le pauvre Jeannot ne voulait qu'une chose, vivre une histoire d'amour, le genre à l'eau de rose, se trouver une gaillarde, dure à la tâche, un peu paillarde, enfin juste ce qu'il faut pour se tenir chaud dans la mansarde. Le drame eut lieu un soir de représentation. La foule se pressait pour voir ce zigoto qui soulevait sans les mains un seau plein d'eau, l'air de rien. Il eut une faiblesse, relâcha une vraie cata. Devant tel désastre, les dames patronesses mirent tout leur talent à rendre grande vigueur. Elles y mettaient les mains et beaucoup plus si besoin, mais rien n'y fit ni fit, c'était foutu, c'était fouti.
J'avoue que les artistes s'y connaissent. Les ombres chinoises sont chinoises et on ne peut plus explicite. La température monte doucement dans la pièce et dans l'assistance, les mains s'égarent dans les corsages et les dames n'hésitent pas à explorer les brais de leurs voisins. Certaines, peut-être plus artistes, retroussent leurs jupes pour imiter l'action du récit d'ombre. Les dames du château, Waldrade et Fifi, qui s'appellent Flore, font honneur à l'hospitalité légendaire du château de Bertrand. Le dit Bertrand, avec un gentil garçon sur les genoux, est aux anges. Le spectacle émoustille, mais on sent bien que les dames ne sont pas sa préoccupation principale. Le garçon roux et potelé à souhait est un des jeunes pages qui font un stage au château. C'est un peu comme apprenti menuisier ou maçon. Les fils de nobliaux des contrées voisines vont voir et apprendre dans les châteaux alentours. Je ne sais pas bien à quoi ça sert, mais ils voient du pays et deviennent des hommes. Sa femme et sa fille ne donnent pas leur langue au chat. Chez moi, on dit qu'elles ne sont pas fainéantes. Ce qui se passe après restera entre moi et moi.
Vous venez d'écouter « Jour à neige, jour à peine » sur Radio Bartas.